explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'était il y a 110 ans, presque jour pour jour, le 15 avril 1912, quelque part au large de Terre-Neuve, dans l'Atlantique Nord. Après avoir heurté un iceberg, le Titanic sombrait, faisant près de 1500 victimes. 73 ans plus tard, l'épave du paquebot est retrouvée, gisant à 4000 mètres de profondeur. L'Ifremer sollicite alors un commandant de la Marine nationale, Paul-Henri Narjolet, pour diriger les expéditions d'exploration et de récupération d'objets sur la carcasse du navire. L'homme accepte, il effectue sa première plongée sur l'épave en 1987. Et voilà notre ancien militaire embarqué dans une aventure qui dure encore aujourd'hui. Il a mené 8 expéditions sur les lieux de la catastrophe, effectué des centaines d'heures de plongée en sous-marin pour tenter de faire parler les vestiges du navire et préciser le scénario du naufrage. Plus de 5500 objets ont été remontés à la surface sous sa supervision. Paul-Henri Narjolet raconte ses expéditions et ses découvertes dans un livre intitulé « Dans les profondeurs du Titanic » qui vient de paraître aux éditions HarperCollins. Cet après-midi, il nous emmène au fond de l'océan Atlantique, à 4000 mètres sous la surface, là où repose l'épave du désormais mythique Titanic. Claire Tesser a préparé cette émission, Karen Day et Stéphanie Texier la réalisent, avec à la technique aujourd'hui Julien Michel. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Daniel Fievé.
La proue du Titanic vient de surgir dans le faisceau des projecteurs de notre sous-marin de poche. Un grand silence s'abat instantanément dans l'habitacle. Plus personne ne dit rien pendant 10 bonnes minutes. Sous nos yeux, la plus belle image que l'on puisse avoir de l'épave. La plage avant, avec les treuils, les chaînes d'ancre, toujours en place 75 ans plus tard. Le spectacle est saisissant. À cette profondeur, la vie marine se réduit au minimum. Pas d'algues ongulantes, de tapis d'éponge, de gorgones ou de coraux multicolores pour masquer la ferraille.
On est très près de la cabine du capitaine Smith. Tu vois sa baignoire? Elle est à quoi, 5-6 mètres? C'est une brèche vraiment énorme. On pourrait même y faire passer le sous-marin nautile.
Bonjour Paul-Henri Narjolet.
Bonjour.
Nous étions le 25 juillet 1987. Vous faisiez partie des trois hommes à bord du Nautile, ce petit sous-marin de poche, comme vous l'appelez. Vous effectuiez votre première plongée sur le Titanic. C'était il y a 35 ans, mais ce moment de la découverte de l'épave pour la première fois, il semble gravé à jamais dans votre mémoire.
Ah, ça c'est certain, je suis pas prêt de l'oublier parce que ça a été un choc un peu émotionnel. Quand on s'est retrouvé sur l'épave, il y a eu d'abord de la joie parce qu'on s'est dit ça y est, enfin on y est, on va voir on voit le Titanic. Et puis très rapidement, c'est passé à de la tristesse parce qu'on était face à un désastre et il y a toute l'histoire, tout ce qu'on avait lu, appris, qui nous est revenu en pleine figure.
Ouais. Alors avec votre petit sous-marin, vous faites le tour de l'avant, la partie avant du bateau. Hein. Vous observez le Nitpi, cet endroit où l'on a vu, où la sentinelle a vu pour la première fois l'iceberg, a crié iceberg droit devant. Tous ces morceaux de l'histoire du Titanic vous apparaissent là à 4000 mètres de profondeur.
Oui, alors là, en particulier, le mât était tombé, mais enfin il y avait encore une partie du Nitpi qui était visible. Et on a pu, comme ça, on est monté jusqu'à la passerelle, on a vu ce qui restait de la passerelle. Et c'est assez extraordinaire parce que quand on le voit de ses propres yeux et non pas en vidéo ou qu'on voit pas, c'est quand même très différent.
Quoi. Ah oui, ça doit être une émotion forte que l'on ressent. Comment est disposée l'épave sur le plancher océanique?
Alors, il y a deux grandes parties qui sont alignées pratiquement nord-sud et il y a un champ de débris, il y a un petit champ de débris entre l'avant et l'arrière, mais la plus grosse partie se trouve dans l'est de la partie arrière, où il y a des gros morceaux. Mmh. Et puis ensuite, dans le sud, il y a beaucoup de petits morceaux, parce que il y avait probablement du courant, où la somme des courants faisait qu'il y avait un certain nombre de débris qui ont dérivé et avant d'arriver au fond.
C'est ça, vous décrivez un immense champ de débris, hein, 1900 mètres de long sur 900 mètres de large. Vous allez, lors de cette première plongée, ramasser le
premier objet du Titanic. C'est quoi le premier objet que vous collectez?
Le premier objet qu'on a remonté, c'est une petite assiette qui était en métal argenté et qu'on a trouvé sur un débris de la coque ou un débris d'une cloison. Et bon, parce qu'on était là aussi, c'était un de notre job, on s'est dit, bon, bah, il faut prendre le premier objet. Donc on a choisi celui-là parce qu'il était facile à récupérer.
Ouais. On verra qu'il y en aura beaucoup d'autres et des assez spectaculaires que vous allez ensuite remonter. Lorsque vous faites cette expédition en 1987, cela fait seulement deux ans que l'épave du Titanic a été retrouvée. C'était le 1er septembre 1985 par l'équipe de Robert Ballard, sous l'œil des caméras de National Geographic.
Wreckage.
Une épave.
Dingo.
Yeah.
Il faut que quelqu'un aille chercher Bob. Ça va lui plaire.
On y est. Regarde-moi ça.
Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas, mais ça a été fait par l'homme.
Il y a d'autres trucs qui arrivent. Celui-là est énorme.
Qu'est-ce que c'est?
Ah, bon sang, c'est une chaudière.
Oui, c'est ça.
Fantastique.
Cette chaudière sera bien identifiée comme appartenant au Titanic. Donc, plus de 73 ans après le naufrage, l'épave du Titanic est retrouvée. Le Titanic était devenu un graal des chasseurs d'épaves. Pourquoi a-t-on mis autant de temps à le retrouver, Paul-Henri Narjolet?
Alors, il y a eu des tentatives un petit peu avant, dans la fin des années 70 et début des années 80, mais la technologie était encore insuffisante pour couvrir des zones importante. Les recherches avaient été faites en plus à la position du SOS, ouais, qui était une position qui était erronée, puisque le bateau allait plus doucement que ce qu'il pensait. Et du coup, ça a été un échec.
Ouais. En fait, on l'a pas cherché au bon endroit. Il était 25 kilomètres
plus à l'est
que ce qu'on pensait.
Tout à fait.
L'année suivant la découverte de l'épave, vous êtes contacté par l'IFREMER qui vous propose, Paul-Henri Narjolet, de venir les rejoindre pour vous occuper des futures expéditions sur l'épave du Titanic. Vous meniez alors une carrière dans la Marine nationale. Vous étiez spécialisé dans le déminage et les interventions sous-marines. Vous avez tout de suite accepté de bifurquer pour aller explorer cette épave du Titanic?
Oui, bon, j'avais déjà des contacts avec l'IFREMER avant et bon, c'est un organisme, un institut qui me plaisait beaucoup parce qu'il faisait des choses qui me passionnaient. Mais bon, je dis pas que je faisais la fine bouche, mais je me disais, bon, oui, je vais y aller un de ces jours, mais bon, j'étais très bien dans la marine, j'avais des affectations qui me plaisaient, donc j'avais encore des choses à faire. Mais quand ils m'ont parlé du Titanic, parce que ça a été trouvé par une... l'IFREMER a beaucoup participé donc à la découverte du Titanic, puisque c'est même les, je veux dire, un Français, Jean-Louis Michel, qui était là de quart au moment où ils ont vu la chaudière, enfin, etc. Mmh. Et donc, si vous voulez, quand ils m'ont dit, voilà, ben là, on a trouvé le Titanic, alors là, j'ai dit, bon, c'est une opportunité, ouais, il faut pas passer à côté. Voilà.
Ça se refuse pas. Et dès que vous arrivez sur la zone, avant même la première plongée, donc nous sommes en 1987, vous dites qu'en pleine nuit, vous êtes monté sur le pont de votre bateau, le Nadir, et vous avez été saisi d'un sentiment étrange en regardant l'endroit où le drame s'était joué.
Oui, c'est vrai, j'ai eu ce sentiment au moment où on est arrivé pour la première fois sur le site, bon, parce que évidemment j'y pensais beaucoup. Alors que j'ai déjà vu ça au fond, parce que pour moi, le drame s'est passé en surface. Ouais. Les gens ne se sont pas noyés, ils sont morts de froid dans l'eau, quoi. Ce jour-là, j'ai vraiment senti quelque chose que je n'ai pas ressenti au fond.
Ouais. En pensant donc à...
à tous ces drames, à tous ces gens, parce que sur les 1500, il y en avait probablement 90 ou 95% qui sont restés en surface, finalement. Il y a très très peu de gens qui sont descendus avec l'épave, mais même dans la machine où ils étaient quand même, ils sont restés jusqu'au dernier moment à fond. Les survivants ont dit qu'ils avaient vu tous les ingénieurs et tous les gens de la machine venir sur les ponts. Ils n'ont pas pu embarquer sur les canots de sauvetage parce qu'ils n'avaient pas le droit ou il n'y avait plus de place, mais ils étaient partis.
Après cette première expédition sur l'épave du Titanic, vous ne le saviez pas encore, hein, Paul-Henri Narjolet, mais ce paquebot va s'installer au centre de votre vie, hein, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage, hein, 35 ans et 8 expéditions plus tard, toute votre existence tourne autour de ce bateau et de son histoire. Vous allez nous raconter ce que vos plongées ont permis de découvrir. Paul-Henri Narjolet nous emmène explorer l'épave du Titanic, le temps d'un bivouac dans les grandes profondeurs cet après-midi sur France Inter.
Un homme sur Terre croit que c'est pour bientôt la toute fin de l'univers. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, même en vrille, même en vrac. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, même en vrille, même en vrac. J'étais dans la peau.
C'était À l'attaque de Mio Sec sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
À peine mis à l'eau, le Nautile est débarrassé des filins qui le retiennent au navire. Le voilà autonome. La plongée peut commencer. Dans la salle de contrôle, l'ordinateur permettra de suivre la progression du Nautile en temps réel. Mais si un accident survient, il y aura bien peu de choses que l'on pourra faire de là-haut pour secourir les plongeurs. À 4000 mètres de profondeur, la pression est considérable. 400 kg au centimètre carré. Et la seule protection des plongeurs est cette coque de 10 cm à peine d'épaisseur. La descente sera longue. 2 heures avant d'atteindre le fond.
2 heures de descente, la voix du journaliste Philippe Gildas décrivant une plongée à bord du Nautile, ce petit sous-marin 3 places que notre invité Paul-Henri Narjolet a utilisé à de nombreuses reprises pour aller explorer l'épave du Titanic à 4000 mètres de profondeur. Vous pouvez passer jusqu'à 12 heures dans ce petit sous-marin de poche, comme vous l'appelez, et ça prend 2 heures de descente. Ça doit être une expérience assez forte, ces 2 heures de descente. On imagine que par les petits hublots du sous-marin, très vite, c'est l'obscurité absolue, Paul-Henri Narjolet.
Oui, l'obscurité commence, et même totale, à 600 mètres, c'est fini, il n'y a plus la moindre trace de lumière, il n'y a plus rien, donc on descend. C'est un peu une phase neutre pour nous, aussi bien la descente que la remontée, parce que c'est du temps perdu, finalement, le temps qui compte, c'est le temps au fond. Et je veux dire, Philippe décrit très bien ce qui se passe pendant la descente. Alors, de temps en temps, on peut mettre en route un projecteur pour voir un petit peu, parce qu'il y a des animaux bizarres, de temps en temps, pendant la descente.
Quel genre d'animaux bizarres on peut voir par le hublot du Nautile?
Oui, c'est entre la méduse, puis des longs trucs, pas des serpents de mer, mais parce que ce sont pas des animaux, mais c'est des chaînes de polypes et des choses comme ça, c'est assez amusant à voir.
Les risques à ces profondeurs, et effectivement, hein, on l'entendait dans cet extrait de documentaire, c'est que vous êtes vraiment seul, vous ne pouvez compter que sur vous-même, et vous le dites dans votre livre, à ces profondeurs, pour le petit sous-marin dans lequel vous êtes, le moindre courant peut être fatal.
Alors c'est ça, parce que surtout sur une épave, parce que bon, quand on travaille sur des zones plates, ça va, mais quand on travaille sur une épave, il faut faire très attention, il y a des courants qui sont forts.
C'est-à-dire que le petit sous-marin pourrait être plaqué sur la coque et être bloqué.
Ah ben oui, voilà, il peut. Ça nous est arrivé un jour, pas sur la coque du Titanic, mais dans d'autres circonstances, d'être plaqué contre des bouts parce qu'on remontait une grosse pièce. Et on est resté coincé presque une heure. Et on a eu de la chance parce que le courant s'est inversé. C'est la première fois d'ailleurs que je voyais le courant s'inverser. Je ne l'avais jamais vu jusque-là.
Ah ouais, bah c'est bien tombé.
J'ai tombé exactement où il fallait. Quoi.
Ouais. Ça ressemble un peu à une capsule spatiale, hein, ce petit habitacle dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si on sent la pression appuyée sur les bords de cette bulle. Est-ce qu'on entend craquer autour de vous?
Alors ça arrive parfois qu'il y ait quelque chose qui se mette un peu en place, mais on ne le sent pas. Mais ça arrive parce que la sphère perd... Bon, peut-être 30 ou 40 litres de volume entre la surface et le fond.
Ah oui, il y a une pression incroyable au fond. Hein, c'est 400 kilos centimètres carrés, hein,
voilà,
je crois.
Tout est compressible. On apprend à l'école que les liquides ne sont pas compressibles, mais ils le sont, les métaux aussi. Enfin, tout est compressible. Quoi. Ouais.
Vous avez plongé avec Buzz Aldrin, l'un des astronautes qui a marché sur la Lune. Il a plongé avec vous à bord de ce Nautilus sur l'épave du Titanic.
Tout à fait. C'était le deuxième homme qui a marché sur la Lune.
Ouais.
Et bon, il avait été invité par l'équipe américaine pour laquelle on travaillait d'ailleurs. Et il a été extrêmement étonné. Déjà en arrivant sur le fond, quand il a vu le sédiment, il a dit « Oh, ça ressemble beaucoup à la Lune ». Ah, il avait l'impression d'alluner, quoi. C'était la même chose. Et après, d'ailleurs, il nous a dit « En dehors d'avoir marché sur la Lune, c'est ma deuxième plus grande expérience.
Ouais. » C'est une expérience hors du temps, un des moments les plus inoubliables que l'on puisse vivre. C'est ce que j'ai fait de plus excitant depuis ma promenade sur la Lune.
Exactement.
A-t-il déclaré. Alors vous y allez en partie pour récolter des objets. C'est assez étonnant parce que ces objets, pour certains, sont déposés sur le fond, mais avec une infinie délicatesse. On voit des assiettes qui sont très très bien rangées les unes à côté des autres parce que les meubles ou les caisses qui les abritaient se sont délitées et elles se sont déposées sur le sédiment, mais... très, très, très doucement.
Oui, oui, c'est des objets qui sont fragiles et qu'on retrouve intacts au fond.
Et alors, la liste des objets que vous remontez ressemble à une liste à la Prévert, hein, le porte-voix du capitaine, un dictionnaire de 650 pages. L'encre était encore intacte sur les pages du dictionnaire.
Oui, alors, d'ailleurs, le conservateur m'avait dit, qui est un ami, m'avait dit, attends, PH, ne remonte pas un autre dictionnaire, c'est un jour par page pour la conservation.
Quoi. 650 pages, il lui a fallu deux ans, alors, pour le faire. Ce dictionnaire, dès votre première expédition sur l'épave du Titanic en 1987, vous avez remonté des objets et certaines de vos trouvailles ne sont pas du tout passées inaperçues jusque dans les journaux de France Inter.
La moisson que font les plongeurs dans les entrailles du Titanic est décidément de toute première importance. Hier, ils ont remonté à la surface un petit coffre-fort et un sac en cuir. Nathalie Fontrelle.
Deux découvertes qui alimentent à la fois la science et la légende. D'abord la science, parce que les deux objets ont vécu différemment leur séjour de 75 ans par 3800 mètres de fond. La mallette en cuir en forme de trousse médicale est étonnamment conservée. Le coffre, lui, souffre de corrosion avancée. Une différence qui indique déjà que les matériaux organiques peuvent rester intacts au fond de l'eau. La légende ensuite, celle qui fait du Titanic un Eldorado rempli de pierres précieuses et de lingots d'or. Le coffre fort, lui, n'a pas encore révélé ses secret, il ne sera ouvert que dans quelques semaines.
Alors bien sûr, le coffre-fort a été ouvert depuis. Qu'est-ce qu'il contenait, ce coffre-fort?
Il contenait pas grand-chose. Il contenait un sac en cuir dans lequel il y avait quelques pièces de monnaie. Bon, on a pensé que c'était probablement un coffre des troisième classe et qu'il n'y avait pas grand-chose dedans.
En revanche, la petite sacoche qui ne payait pas de mine, vous l'avez ouverte. Et là, vous n'avez pas été déçu.
Oui, tout à fait. D'abord, c'était une sacoche qui nous intriguait parce que les anses de cette sacoche avaient été coupées par un outil tranchant. Alors, on ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, bon, il y a un pilote qui a craqué, entre guillemets, et qui a dit, bon, je la récupère. Et quand on l'a ouvert en surface, ça a été une surprise parce qu'elle contenait beaucoup de petits coffrets avec des bijoux dedans, des liasses de billets, des pièces en or, enfin, etc. Et on s'est aperçu que, surtout dans les bijoux, ils avaient des initiales différentes. Donc on a pensé que c'était probablement un coffre-fort qui avait été vidé. Et on ne comprend pas pourquoi. Et quelqu'un avait dû essayer, peut-être un commissaire, de l'embarquer sur un canot de sauvetage. Et puis c'était interdit, donc ça n'a pas été possible. Et on l'a retrouvé au fond.
Ouais, à ce jour, c'est le seul vrai trésor au sens valeur marchande précieuse que l'on ait découvert.
Absolument. Ouais, ouais, parce que c'est il y a d'autres coffres-forts, mais qu'on n'a pas vus, ouais. Notamment dans la chambre du commandant. Puis il y a surtout la chambre forte du bateau, mais la porte est fermée. Donc ouais.
Vous avez aussi remonté une bouteille de champagne, c'est aussi assez joli, hein, comment vous en parlez. Elle semblait encore parfaitement bien bouchée avec son bouchon.
Oui. Bon, le bouchon n'était pas en parfait état, mais il y avait toujours le bouchon dessus. Il n'y avait pas le cerclage en métal qui, lui, avait disparu, mais elle était quand même fermée. Et surtout, à cause de la pression et de la température, le gaz était toujours dedans. Donc, quand on est arrivé en surface, on s'est aperçu qu'il y avait des bulles qui sortaient par le bouchon. Et simplement, le fait de le mettre hors de l'eau, ça a encore diminué la pression. Donc il y a eu plus de gaz qui est sorti et en quelques minutes ça sentait le champagne dans le bateau. Donc on avait une odeur du Titanic et c'était extraordinaire. Quoi. Ouais. Ça c'est la première fois de ma vie que je sentais l'odeur d'une épave.
Ouais. Vous avez senti l'odeur du Titanic.
L'odeur du Titanic en surface. Et ça, c'était un moment inoubliable.
Quelques années plus tard, en 1993, lors d'une nouvelle expédition, vous avez remonté une montre à gousset en or. Et il y avait des initiales sur la montre. On a pu identifier le propriétaire, l'homme qui est mort d'ailleurs lors du naufrage. Mais vous avez presque mené une petite enquête et vous avez pu retrouver la fille qui elle aussi était sur le bateau mais qui avait pu être sauvée. Elle avait 16 ans au moment du naufrage.
Exactement.
Et décision a été prise d'aller lui remettre cette montre en or.
C'est ça, comme on avait de bonnes relations, je veux dire, avec elle, et que c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, le directeur de la compagnie a décidé lui-même, d'ailleurs, de fabriquer un petit coffret en bois, parce qu'il était très, très, très bon là-dedans. Et on est allé en Angleterre remettre, c'était Edith Esman, elle en a pleuré, d'ailleurs, quand on lui a remis, avec une condition quand même.
Ouais. Il fallait
que sa famille, à sa mort, rende la montre de façon à ce qu'elle retourne dans la collection, puisqu'on avait décidé de ne pas disperser les objets de la collection, que c'était un tout, et qu'il ne fallait ni les vendre, ni individuellement, et ni la disperser. Quoi.
Ouais. Mais une exception a donc été faite, au moins momentanément, pour Edith Esman. Elle avait donc 16 ans au moment du naufrage. Elle avait 97 ans lorsque vous lui avez apporté la montre de son père, et vous écrivez, Edith Esman est projetée 81 ans plus tôt, quand dans son canot de sauvetage, à 1h30 du matin, elle voit son père pour la dernière fois. Lui est resté à bord. Il leur lance « Je vous retrouve à New York ». Il tire machinalement sa montre de son gilet et regarde l'heure. Pour elle, cette montre avait vraiment un lien précis avec le naufrage. Elle en avait un souvenir.
Tout à fait, elle s'en souvenait très bien, parce qu'à 16 ans, on a quand même une bonne mémoire. Et ça l'avait frappée, et c'est pour ça qu'elle a été très très émue quand on lui a donné cette montre.
Oui. Elle a quand même beaucoup d'humour, cette Edith Esman, quand vous lui rapportez la montre, parce qu'elle vous dit « Maman avait oublié un collier sur la table de nuit de sa cabine, ça vous ennuierait d'aller le récupérer ?»
Oui, ça montrait d'ailleurs que bon, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord par le fait qu'on remonte des objets, et elle, tout naturellement, elle a dit « Moi, ça me plaît ce que vous faites. » Elle dit « Au fait, ma maman a oublié son collier. »
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous l'abordez dans votre livre, hein, vous ne contournez pas cette question. Certains voient d'un mauvais œil le fait que cette épave, on ne la laisse pas reposer en paix au fond de l'océan. Cette question, elle vous a travaillé. Vous vous êtes demandé est-ce qu'on est en train de violer un tombeau lorsque l'on plonge sur cette épave ?
Tout à fait, parce qu'il y avait très vite une polémique qui avait été menée, en particulier d'ailleurs par Bob Ballard.
Qui a découvert l'épave, en tout cas son équipe.
Voilà, son équipe, avec une équipe française, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient deux chefs de mission, et que Jean-Louis Michel était le co-leader de l'expédition. Mais Bob Ballard, qui, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, avait eu l'interdiction formelle de récupérer quoi que ce soit sur l'épave. Donc lui s'est dit, si moi, Bob Ballard, qui a découvert l'épave, je n'ai pas le droit de récupérer des objets, c'est pas bien de récupérer des objets. Alors lui, je veux dire, on voit pourquoi il a fait ça. Mais par contre, j'ai rencontré une autre qui s'appelait Eva Hart, qui m'a dit, ben moi, ça me plaît pas ce que vous faites parce que mon papa est mort. Quoi. Donc, il faut pas éluder la question, comme vous dites. Et je comprenais très bien cette attitude et je la respecte. D'ailleurs, pour moi, qui ai eu un mort ou 1500 morts, c'est pareil. Quoi. Ouais.
Mais vous rappelez quand même, parce que ça aussi, c'est une idée reçue, que depuis que l'on plonge sur cette épave, on n'a jamais retrouvé le moindre cadavre, les moindres os à côté ou dans l'épave. Finalement, aucun corps n'est resté dans l'épave, ou alors en tout cas, ils ont complètement disparu.
Alors, s'il y en a, effectivement, il doit être en très petit nombre, parce que tous les passagers avaient des brassières de sauvetage, en fait, etc. Et puis, si on a une chance de s'en sortir sur un bateau, c'est sur le pont, c'est pas en restant à l'intérieur. Bon, il y en a sûrement qui ont été coincés, mais du fait de l'acidité au fond de la mer, soit le sédiment, soit même l'eau d'ailleurs, eh bien toutes les matières organiques autres que le cuir sont dissous. Donc on ne trouve rien, il n'y a aucune chance de retrouver quelque chose. Quoi.
Donc en ce sens, l'épave du Titanic ne peut pas vraiment être considérée comme un tombeau à votre sens.
Oui, bon, même s'il y en a qui veulent le considérer, je le conçois, mais bon, pour moi c'est vraiment en surface que ça s'est passé. Quoi.
Vos expéditions sur le Titanic ont aussi permis d'étudier la coque du bateau pour préciser le déroulement du naufrage. Nous allons en parler dans la suite de notre bivouac avec vous, Paul-Henri Nargelet. Porté par le vent, c'était Sébastien Tellier sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Putain de merde! Un iceberg droit devant!
Iceberg droit devant!
Arrêtez-vous tout! On va toucher!
Qu'est-ce que c'était, monsieur Murdoch?
Un iceberg, commandant. J'ai tout fait pour l'éviter, mais on l'a heurté, et je
crois
que...
Fermez les portes étanches!
Elles sont fermées, commandant.
De l'eau, à 14 pieds au-dessus de la quille, en 10 minutes. Comme il s'incline par l'avant, l'eau va se répandre en passant au-dessus des cloisons étanches. Rien ne pourra l'arrêter. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer.
Mais ce paquebot ne peut pas couler!
Il est fait d'acier, monsieur, je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera.
Combien de personnes à bord, monsieur Murdoch?
2200 âmes à bord, commandant.
Le Titanic de James Cameron, bien sûr. En 35 ans, notre invité Paul-Henri Nargelet a mené 8 expéditions sur l'épave du Titanic. Il en est devenu l'un des spécialistes. Le déroulement du naufrage, tel que le montre le film de James Cameron, est-il assez fidèle à ce qui s'est passé dans la réalité, selon vous, Paul-Henri Nargelet ?
Il est très très fidèle, même si on continue à faire des études sur effectivement le scénario exact. Il y a des toutes petites différences, mais Cameron est un perfectionniste et il a voulu absolument, il s'est entouré d'ailleurs de gens qui connaissaient bien le problème, un historien, un de ses amis d'enfance d'ailleurs, qui était un type formidable, qui connaît parfaitement l'épave, et surtout l'histoire de l'épave. Donc il a même refait, si vous voulez, une partie de son scénario à la fin, quand on a eu découvert...
Ouais, à cause d'une découverte qui a été faite lors d'une de vos expéditions, il a un petit peu changé son scénario. Cette découverte, c'était en 1996. Vous plongez avec un tout nouvel outil qui permet de sonder la partie de la coque qui n'est pas visible, qui est enfouie dans le sédiment. Vous allez donc pouvoir voir de quelle manière l'iceberg a endommagé la coque du Titanic. Qu'est-ce qui est découvert à ce moment-là ?
Alors, en faisant le tour de l'épave, on voyait aucun signe de ce qu'avait pu faire l'iceberg. Donc, on s'est dit, comme la partie avant était enfouie dans le sédiment, on a utilisé un matériel pour détecter ce qu'il y avait à travers le sédiment, qui est un appareil scientifique qui sert dans d'autres circonstances. Un sondeur pénétrateur de sédiment qui n'est pas fait pour ça, d'ailleurs. Enfin, on est arrivé comme ça à obtenir une image pas très très bonne, mais enfin, on a quand même découvert 5-6 petites brèches, au lieu d'une brèche de 100 mètres de long, parce qu'une brèche de 100 mètres de long, ça n'avait pas de sens, parce que le bateau aurait coulé en 10 minutes.
Alors ça n'avait pas de sens, c'était pourtant ce qui était admis par la commission d'enquête. On pensait à cette époque-là qu'il y avait une large échancrure de 100 mètres de long, le long de la coque du navire.
Alors que tous les gens qui connaissent les bateaux savent qu'une brèche de 100 mètres de long, le bateau coule en 10 minutes. Donc là, c'était des petites brèches, le total faisait à peu près 1 mètre carré, donc on a calculé que le temps d'eau pouvait rentrer à la minute, tant de mètres cubes.
Alors c'est intéressant ça, parce que justement vous faites le calcul dans le livre et vous dites, on a calculé que l'eau, par ses pourtant toutes petites ouvertures, rentrait 60 fois plus vite qu'elle ne ressortait grâce aux pompes du Titanic. Donc l'issue était inéluctable.
Et ça, c'est pour ça que le commandant, très rapidement, a compris, parce qu'il est allé faire un tour dans les fonds avec l'ingénieur qui avait construit le bateau, que le bateau était perdu. Alors, on a parlé des cloisons étanches, que l'eau qui passait par-dessus, mais ce qu'on sait, par les témoignages dans la commission d'enquête, que de toute façon, les mécaniciens avaient réouvert les portes étanches parce qu'il fallait qu'ils puissent passer d'un compartiment à l'autre pour pas être prisonniers dedans, donc et qu'ils les ont pas refermés. Ouais. Donc, de toute façon, comme ils avaient vu que l'eau rentrait tellement, que de toute façon, alors ça a peut-être un petit peu accéléré le naufrage, mais pas finalement de beaucoup. Quoi.
Ces compartiments qui fragmentaient la coque du Titanic, ils étaient au nombre de 16. 6 d'entre eux ont été percés par l'iceberg. Vous dites que 3, si seulement 3 avaient été percés, le Titanic aurait pu rester à la surface. Avec 6, c'était
perdu. Oui, ils savaient très bien qu'avec 6, c'est aucune chance. Parce que, bon, alors, évidemment, il y a des gens qui ont dit, ben, s'ils étaient restés droit devant, ils avaient tapé droit devant dans l'iceberg, il s'est rien passé. C'est impossible. On peut pas regarder un iceberg droit devant et dire, bon, on bouge pas, hein, reste comme ça, quoi. Donc, on essaye de l'éviter, quoi. Ça paraît évident.
Cela dit, vous émettez quand même cette hypothèse parce que par la suite, un autre bateau a été confronté au problème et au lieu d'essayer d'éviter l'iceberg, il a gardé le cap droit sur l'iceberg, mais il a fait machine arrière toute. Autrement dit, il a pris le choix d'une collision frontale, mais le plus doucement possible.
Et il s'en est sorti.
Il s'en est sorti. Donc peut-être que ça aurait pu marcher pour le Titanic.
Oui, à part que bon, vu la taille du bateau et tout, pour inverser les moteurs très rapidement, c'était pas évident du tout. Ça a pris beaucoup de temps.
Alors il faut dire que ce bateau a eu affaire à des circonstances, un concours de circonstances défavorables. D'abord une nuit sans lune, ce qui fait que il fait très sombre. On le voit très tardivement, cet iceberg.
On voit surtout pas. C'est la frange qui est en bas d'un iceberg, quand il y a un peu de vague, ça fait une frange blanche. Ça permet de le voir, surtout avec le peu de lumière qu'il pouvait avoir. Et là, les vigies, hein, qui sont des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils ont une vue particulièrement bonne, n'ont rien vu. Ouais. Ils l'ont vu tardivement.
D'autant plus que la mer était particulièrement calme. C'est une mer d'huile, donc du coup, cette frange d'écume
n'existe pas.
Ne se forme pas. Pourtant, il était gigantesque, cet iceberg. On en a des photos, il était gigantesque. Et puis, vous précisez que la glace d'un iceberg, c'est beaucoup plus dur que la glace d'un glaçon dans le réfrigérateur.
Oui, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est une glace qui a plusieurs millions d'années, puisqu'elle est descendue, en plus on sait que ces icebergs venaient du Groenland, et les glaciers du Groenland font 200 ou 300 kilomètres, donc il faut des siècles et des siècles pour que la glace descende. C'est des masses considérables, donc la glace est compacte, et c'est du béton. Mmh. Et moi j'ai fait l'essai lors d'un documentaire où on est allé à côté d'icebergs, où il y avait des petits glaçons à côté, on en a monté dans le bateau, et avec un marteau on la casse pas. Il faut une masse pour arriver à casser ces glaces, quoi.
Bref, la coque du bateau, aussi solide soit-elle, ne pouvait pas grand-chose face à cet iceberg. Le Titanic était-il réellement réputé insubmersible, comme on l'a beaucoup dit par la suite?
Alors, il a été réputé par la presse, par les médias,
oui.
Parce que le fabricant lui avait dit qu'il était pratiquement insubmersible.
Ah oui.
Et le mot pratiquement a été rapidement supprimé en disant qu'il était insubmersible pour la publicité, en fait.
Ouais. Alors, pour comprendre le déroulement du naufrage, vous ne vous êtes pas uniquement intéressé à l'épave, vous avez aussi consulté les témoignages des survivants, Paul-Henri Narjolet. Je vous propose d'écouter le témoignage justement de Rose Amélie Icard, survivante de la catastrophe du Titanic. Nous sommes en 1955, soit 43 ans après le naufrage. Rose Amélie Icard raconte.
Nous sentions sous nos pas le pont s'incliner vers l'abîme. Le commandant Schmitt avait crié « Les femmes et les enfants d'abord !» Près de moi étaient deux beaux vieillards, propriétaires des grands magasins Macy's de New York. Elle refusa d'aller dans la barque après y avoir fait descendre sa femme de chambre. Elle se suspendit au cou de son mari en lui disant « Nous sommes mariés depuis 50 ans, je ne veux pas te quitter, je veux mourir avec toi. » Les marins en blouson bleu, ceinturon béret, entonnèrent le beau cantique « Plus près de toi, mon Dieu !» C'est le cri de ma foi plus près de toi. Les canaux de sauvetage furent rapidement descendus. Une fois à l'eau, l'officier nous dit « Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie. » Je pris les avirons et ramai avec tant d'énergie que j'en eus les mains en sang et les poignets paralysés. Tout en nous éloignant sur la mer presque calme, je ne quittais pas des yeux le Titanic éclatant de lumière. Soudain, l'obscurité se fit complète et impénétrable. Des cris, des hurlements horribles s'élevèrent au milieu des craquements du navire, puis ce fut tout.
Les souvenirs précis de Rosemarie Icard, survivante du Titanic, elle dit bien que la règle des femmes et des enfants d'abord a été appliquée scrupuleusement, peut-être un peu trop à vous lire Paul-Henri Narjolet, car du coup, des canots de sauvetage sont partis alors qu'ils n'étaient pas pleins.
Oui, ça a même été pire parce que le commandant Smith, du côté où il était, parce qu'ils avaient partagé un peu, il y avait le côté bâbord et le côté tribord, lui avait dit les femmes et les enfants seulement. Donc les hommes n'avaient pas le droit de monter dans les canots de sauvetage, alors que de l'autre côté, il y avait deux autres officiers qui, eux, une fois que les femmes étaient montées à bord, ont laissé monter des hommes à bord. Ce qui fait qu'il y a effectivement des canots de sauvetage qui pouvaient contenir 65 personnes. Il y en a qui sont partis avec 16 personnes.
Ouais.
Donc les chiffres auraient pratiquement, à peu de choses près, pu être inversé.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 700 rescapés et 1500 morts, on aurait pu avoir le bilan inverse.
À peu près 1350 rescapés, il y avait de quoi mettre, ce qui n'était pas beaucoup.
Oui.
Mais enfin, c'était. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que Amélie Icard dit rapidement mis à l'eau. Ils n'ont pas été mis rapidement à l'eau,
oui.
Parce que ils n'avaient jamais été, ils n'étaient pas entraînés, en fait, etc.
Oui.
Et tout, parce que le commandant avait fait, à mon avis, des erreurs, là, dont une, c'est de, ils avaient un exercice de mise à l'eau qui était prévu le dimanche matin, et puis il s'est aperçu que c'était un dimanche, donc c'est le jour de la messe, enfin, ou de l'office, donc il avait fait annuler l'exercice, alors que quand même,
l'exercice d'évacuation n'a pas eu lieu à cause de la messe.
Oui, l'équipage n'était pas entraîné, enfin, etc., ce qui fait qu'ils ont mis beaucoup plus de temps, et le dernier canot de sauvetage, qui était le canot D, a été mis à l'eau à quelques minutes avant que le bateau coule, quoi.
Ce commandant de bord du Titanic, dont c'était la dernière traversée, hein, après il était à la retraite, il a accumulé les erreurs, hein, Paul-Henri Narjolet.
Tout à fait, il a accumulé des erreurs et d'ailleurs, il avait été choisi, je l'ai appris il y a très peu de temps, par un cousin qui était un juriste et qui m'a expliqué ça. Les compagnies d'assurance avaient un peu exigé que ce soit lui parce qu'il n'avait jamais eu de problème. Or, finalement, quand ces juristes ont fait des études, ils ont dit non, c'est le contraire qui aurait dû se passer. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui a eu des problèmes et qui les a gérés et qui a su faire ce qu'il y a. Alors que lui, finalement, il s'est trouvé dépourvu, qu'il n'avait jamais eu de problème, donc tout allait bien. Il estimait qu'il avait une chance inouïe. Donc, il se reposait là-dessus. Et puis, il a mal réagi, quoi. Il a pas fait ce qu'il fallait. Comme quand il a dit les femmes et les enfants uniquement. Bon, c'était une bêtise. Il a pas ralenti alors qu'il recevait des messages en disant qu'il y avait de la glace partout. Enfin, il s'est trouvé peut-être un peu paralysé. Alors il a dit quelque chose avec son mégaphone, il a dit « Soyez british ». Ok, voilà.
Bon, c'est une consigne comme une autre dans la cohue. De toute façon, il n'y avait pas assez de place, même si tous les canaux de sauvetage avaient été remplis, si les radeaux ne s'étaient pas retournés, parce qu'il y a aussi eu ça. Bref, si toutes les places avaient été occupées. Vous dites quand même on aurait même pu surcharger certains canaux de sauvetage parce que la mer oui. était tellement calme ce jour-là qu'il y avait moyen vraiment de forcer un peu le destin. Il y a quand même eu des erreurs de fait, mais on aurait dû aussi équiper ce paquebot de davantage de canaux de sauvetage.
Oui, alors bon, il y avait une réglementation et le Titanic était largement même au-delà du nombre puisqu'il avait 4 canaux de sauvetage de plus, mais c'était un peu idiot parce que elle était faite pour des bateaux qui faisaient 15 000 tonnes et on pensait pas qu'on allait en faire de plus que ça. Et le Titanic faisait 50 000 tonnes, et il était de loin pas plein le jour du naufrage.
Ouais.
Donc ça aurait été pire s'il avait été plein. Quoi.
On a tiré des leçons de cette catastrophe, de ce point de vue-là. La réglementation a changé par la suite.
Immédiatement, dans les jours qui ont suivi, il y a eu une réglementation, puisque sur les sister ships du Titanic, on a mis le nombre de canaux de sauvetage qui était prévu à l'origine, mais qui n'avait pas été mis parce qu'on pensait que les canaux de sauvetage allaient un peu encombrer la plage. Le pont promenade des premières classes, donc c'était dommage, et que ça servait pas à grand-chose de mettre autant de canaux de sauvetage. Et puis, il a été créé la patrouille des glaces, donc qui, encore aujourd'hui, surveille les icebergs, jette sur les icebergs de la limaille de fer pour qu'ils réfléchissent plus les ondes radar. Ils sont signalés, enfin, etc. Il y a eu énormément de... La radio est devenue non plus une compagnie privée qui envoyait des messages pour les passagers, mais qui sert à la sécurité.
Après avoir disparu de la surface de l'océan, le Titanic finira-t-il par disparaître complètement du fond de l'océan Atlantique? Et à quelle échéance? Vous allez nous dire comment évolue l'épave. Nous allons replonger dans les grandes profondeurs avec vous, Paul-Henri Narjolet, dans la dernière partie de ce temps d'un bivouac sur France Inter.
Yeah.
Write a list of things to look forward to. C'était Courtney Barnett et c'est Valentine Chédebois qui signe notre programmation musicale.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Pendant les deux premières plongées, on voulait absolument filmer les plans que nous avions prévus et dessinés. Résultat, tout ce que j'ai filmé était bon pour la poubelle. Je n'ai pas laissé le Titanic me parler. Au cours des plongées suivantes, je n'ai plus cherché à filmer ce que j'avais prévu, qui n'était pas bon de toute façon, et ce que je filmais alors était beaucoup plus intéressant. On avait fait construire une espèce de petit robot pour la caméra. La caméra pouvait rentrer à l'intérieur du paquebot. Personne n'avait fait ça avant. Les portes à battants avec des panneaux en fer forgé, elles sont encore là, très bien préservées. Il y a une élégance, le fantôme de cette élégance.
Le réalisateur James Cameron évoquant ses plongées sur le Titanic en 1995 pour préparer son film. Paul-Henri Nargelet, vous qui avez mené de nombreuses expéditions sur cette épave, vous comprenez ce qu'il veut dire quand il dit qu'au début, il n'a pas su laisser le Titanic lui parler?
Oui, bah c'est sa façon de faire, parce que bon, il y a l'émotion qui peut un petit peu empêcher de faire quelque chose. Et lui, c'est un perfectionniste, comme je l'ai déjà dit. En plus, c'est un amoureux des épaves. Mm-hmm. Il adore les épaves et effectivement, il dit au début, j'avais prévu des plans. D'ailleurs, il y a des images qui le montrent avec une petite sur des maquettes. Enfin, il prévoyait tout et puis il s'est aperçu que ça ouais. Valait rien du tout.
Ça, vous le dites, hein, plonger sur le Titanic implique de flirter avec l'imprévu. Ça se passe pas toujours comme on le souhaitait en surface, une fois qu'on est à 4000 mètres de profondeur. Il disait aussi que c'était la première fois que l'on faisait pénétrer des caméras à l'intérieur de l'épave. C'est vrai, ça?
Pas tout à fait, parce que d'ailleurs, plusieurs fois, il a dit des choses comme ça qui étaient arrêtées. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu, parce qu'il est venu passer une semaine à Toulon, dans les bureaux d'Aquaplus, et qui était la compagnie dont je m'occupais à l'époque. Et il m'a demandé de lui montrer ce qu'on avait fait à l'intérieur. Donc, on avait fait des images. Ouais. Et quelques temps plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, je vais te montrer ce qu'on a fait. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ces images, je dis, elles sont bien meilleures que les nôtres parce que la technologie s'était améliorée. Je dis, en plus, bon, ton métier, c'est de faire des images, c'était pas le nôtre. Puis je lui dis, mais. Alors il m'a regardé, il m'a dit, mais quoi? Alors je lui dis, mais j'ai rien vu qu'on n'avait pas vu déjà. Alors il m'a regardé, il m'a pointé du doigt, on était là en face de l'autre, comme vous, et il m'a dit, je reviendrai. Et puis il est revenu quelques années plus tard, il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais voir dans le bateau que tu n'as pas pu voir? Je dis, moi, je voudrais voir la piscine. Il m'a dit, pourquoi la piscine? Je dis, parce que la piscine, elle paraît vide alors qu'elle est pleine, parce qu'il n'y a pas de surface. Quoi. Alors il s'est un peu gratté la tête, il a dit, bon, celui-là, il est un peu compliqué. Mais il a essayé d'y aller.
Il a réussi?
Non, il s'est arrêté juste à côté, dans les bains turcs, où il a fait des images absolument fantastiques, mais il m'a dit, les portes étaient fermées, je pouvais pas les ouvrir. J'ai pas vu la piscine, mais il était vraiment. Il y avait une cloison à franchir, quoi, pas plus.
Les décors pour certaines parties de ces salles du Titanic sont encore impeccables, 110 ans après.
Surtout les bains turcs qui étaient complètement au fond. Et il y avait des genres de vitraux. Et les projecteurs de son petit engin éclairaient ses vitraux, réfléchissaient à la lumière. C'est des images fantastiques. Donc nous, on était allés dans la salle à manger. D'ailleurs, on a failli rester coincés dans la salle à manger. On a eu un peu de frayeur dedans. Ah oui, parce que on regardait partout, à droite, à gauche. Et puis, quand on a voulu ressortir, d'un seul coup, il n'y avait plus de visibilité parce que notre câble avait touché justement des tas de choses et Cameron a corrigé tout ça pour pas avoir ce genre de problème. Puis on s'est trouvé en face d'un poteau et on s'est dit alors là, on était venu par la droite ou par la gauche, on ne savait plus. Et il y avait une dizaine de poteaux comme ça dans la salle à manger. Donc on a été, heureusement qu'on enregistre tout dans le sous-marin, on a rejoué les bandes à l'envers. Si vous voulez, pour savoir, on se disait, bon, alors le dernier poteau, on l'a pris à droite, donc maintenant il faudra le prendre à gauche, etc., pour ne pas bloquer le câble entre tous ces poteaux. Donc on est arrivé à tout sortir et à être indemne. Enfin, si on était remonté sans le petit robot, ces 2 millions d'euros qui disparaissent, ça la fout un peu mal, quoi, comme on remonte, voilà.
Dans quel état se trouve aujourd'hui l'épave du Titanic? On entend beaucoup de choses. Certains disent dans 20 ans, elle aura complètement disparu. Vous êtes beaucoup moins inquiet que ça dans votre livre, Pauline Argelet.
Oui, tout à fait. Alors, moi, ça fait déjà donc 35 ans que j'entends dire que dans 20 ans, elle va disparaître. Or, elle est toujours là. Et quand on fait, je dis pas des calculs, mais enfin bon, on sait que un des facteurs de détérioration, ce sont les bactéries. Bon, alors, les scientifiques nous ont dit, on pense que il y a à peu près 400 kilos de métal par jour qui sont avalés par les bactéries. Donc, ça paraît énorme. Mmh. Mais le bateau, il faisait 50 000 tonnes, ça fait 50 millions de kilos. Donc, si on divise par, mettons, même 500, on arrive à 100 000 journées. 100 000 journées, ça fait 200 ou 300 ans. Donc, il y a encore le temps. Mmh. Alors, évidemment, l'épave ne ressemblera plus rapidement au Titanic, parce que tout s'écroule. Et d'ailleurs, moi, je compare la partie arrière avec la partie avant, qui est beaucoup plus... La partie arrière est beaucoup plus endommagée, et elle a, à mon avis, donc entre 50 et 100 ans d'avance sur la partie avant.
Mmh. En attendant que cette épave disparaisse comme toutes les autres épaves, hein, vous
c'est
le dites,
inéluctable.
Elle n'échappera pas à cette loi. En attendant, on peut sauver des morceaux et des objets symboliques du bateau, ce que vous faites hein, depuis 1987. Et vous avez notamment remonté à la surface des sifflets du Titanic en 1993 et 1994. Alors il s'agissait à l'époque de la construction du Titanic des plus gros sifflets au monde. Après leur long séjour dans l'eau, eh bien ces sifflets étaient en excellent état et après nettoyage, on a pu les faire fonctionner. C'est bien qu'en 1999, lors d'une exposition dans le Minnesota, on a pu entendre la voix du Titanic. Ce qu'ont entendu les passagers du Titanic quand le paquebot a quitté le port de Southampton. Vous les trouvez émouvantes c'est,
ah ben,
c'est...
Moi, chaque fois que je les entends, là, même maintenant, ça me donne la chair de poule. Et chaque fois, je veux le faire. J'étais pas là le jour où on l'a fait, parce que j'étais en France à ce moment-là, et je l'ai entendu en direct sur les ondes, j'ai eu la chair de poule, et là, je viens de l'avoir. Quoi. Je peux vous dire, ça me fait quelque chose à chaque fois.
Quel est l'objet ou la partie du Titanic encore au fond de l'océan, Paul-Henri Narjolet, que vous rêveriez de remonter ?
Alors j'aimerais remonter à une chaudière, ça pèse 60 tonnes. J'aimerais remonter aussi à un cylindre de la machine, puisqu'ils ont été détachés. Pourquoi ? Parce que ce sont des objets qui sont grands et qui permettraient aux visiteurs de se rendre compte de la taille du bateau et de l'énormité, parce que ces chaudières, c'est un modèle très, très courant, mais j'en ai vu sur d'autres bateaux, c'est des chaudières qui tiennent dans la pièce, alors que celle du Titanic, c'était 8,50 m de diamètre, quoi, c'était des monstres, et il y en avait 29 comme ça. Donc c'est ça, j'aimerais qu'on fasse ça. Aujourd'hui, on a les moyens techniques pour le faire, on sait le faire, et je serais content qu'on arrive à faire ça.
En revanche, vous ne croyez pas du tout aux projets plus ou moins saugrenus qui parfois ont émergé, justement de faire réémerger, de renflouer la partie avant la plus intacte du Titanic, avec des fois des idées complètement farfelues, de remplir de balles de ping-pong cet avant du bateau, vous mentionnez ça. Ça paraît complètement impossible, même avec les technologies actuelles, à balles de ping-pong ou pas, de faire remonter une portion du Titanic.
J'ai eu des... pendant un moment, parce que moi, quand quelqu'un me dit j'ai trouvé un système pour remonter le Titanic, je dis, je suis très intéressé, quoi. Donc, il y avait un ingénieur qui était, je ne sais plus s'il était hollandais ou danois, qui m'avait sorti un projet qui tenait debout très bien, quoi. Ça tombait très beau, mais à la fin, je lui ai posé la question, parce que c'était des sphères qui voulaient descendre par un gros tuyau, etc. Et quand je lui ai dit, comment vous faites descendre les tuyaux. Il m'a pas répondu et puis ça s'est arrêté là parce qu'il avait tout prévu, la remontée mais pas la descente.
C'était un sérieux problème. Vous nous avez offert quelques photos que vous avez prises lors de vos plongées. Nous allons les mettre sur la page Instagram et la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Je rappelle le titre de votre livre Dans les profondeurs du Titanic aux éditions HarperCollins. Un grand merci à vous d'être passé nous voir et bon retour aux États-Unis, Paul-Henri Narjolet.
Merci beaucoup.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.